Salut les amis.
Salut Charline.
Il n'y a plus que 28 jours avant le premier tour.
Ouais, ah. Après Chaminade, il peut repartir pour 50 vacances.
Et on reçoit qui aujourd'hui?
Thomas Fersen.
Oh génial, ah. J'adore français, j'adore. Oh.
Charline, ça va pas?
Ah bah si, quoi. Si. Bah non, t'es toute palote.
Bah oui,
oh, mais ça va aller.
C'est... Ah, t'aimes pas Thomas Fersen?
Ah si, je l'adore, mais...
Bah alors,
mais
quoi? Ah oui, non, mais moi je sais.
Qu'est-ce qu'il y a? Vas-y, toi raconte, parce que pour moi c'est encore un peu difficile.
Et Thomas Fersen, c'était un de nos premiers invités aux 75 minutes.
Ah oui, votre émission d'été.
Il avait été exécrable?
Ah pas du tout, il était charmant.
Mais on débutait, voilà.
Ah, vous l'avez confondu avec Florent Pagny.
Mais non, mais voilà, à la fin de l'émission, on était à court de questions.
Oh, rien que d'y penser.
Ouais, Charline est partie en impro. Et elle a posé la question la plus con de l'histoire du journalisme.
Mais ça montre que Jean-Pierre Pernaut avait déjà posé la question avant.
Ah bah, même pas.
Bah non. Bah alors, quoi?
Mais oui, c'était quoi cette question?
J'ai retrouvé la bande. Là, on est été 2014.
Et vous, comment vous attaquez une tournée alors? Il y a une logique quand même, on vous fait pas passer de Biarritz à Lille.
Mais qu'est-ce que tu voulais dire?
Bah, je voulais savoir s'ils s'organisaient bien pour pas perdre trop de temps dans les transports.
Ah bah, c'est intéressant d'avoir un créateur puis de lui parler trajet.
Mais je sais pas ce qui m'a pris, j'ai hésité. Enfin, moi, à l'époque, il n'y avait pas la réponse dans la question.
T'as hésité à lui demander sa pointure de chaussure?
Ah oh, ou oui, c'est... Bon, ça va, alors... je m'y connais pas en tournée, voilà, puis j'étais inquiète de son empreinte carbone.
Bah, c'est cool qu'il revienne parce que tu vas pouvoir lui parler de la cuisson des œufs à la coque.
Voilà, s'il préfère l'heure d'été à l'heure d'hiver.
Voilà. Ah non, mais écoutez, ça suffit, mais je vais lui parler entre autres de la Guyane. Tiens,
ah voilà, oui, c'est intéressant.
Ah bah oui, là, il y a plein de questions à poser.
Ah bah vous voyez, j'ai progressé.
Ah bah ça, Thomas Fersen, il va s'en rendre compte.
Surtout quand tu vas lui demander comment il va insérer la Guyane dans sa tournée.
Ah oui, parce qu'entre Biarritz et Lille, c'est pas le chemin.
Bonjour la France Inter, bonjour Lille et Biarritz, bonjour la France au-delà des mers, bonjour la Guyane. Vous écoutez l'émission qui lance la fusée de l'actualité et voici les trois informations qu'on va placer sur orbite jusqu'à 18h. La culture est la grande oubliée de cette campagne, on nous dit en une libération, elle est absente des débats, elle est même absente du programme de Marine Le Pen.
Dans le peu de temps que j'ai, je passe au bord de ma piscine, seul, à lire. Sartre, Mauriac, Kandinsky.
Kandinsky.
Oui, ça m'aide beaucoup.
C'est la grève générale en Guyane où la société est minée par la pauvreté et son corollaire, l'insécurité. Et pour déminer, autant vous dire que les envoyés du gouvernement, ils s'y prennent comme des manches avec les Guyanais.
Oh, 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 possède-moi le coco. Possède-moi le coco. Put the coconut down now.
Une étude mesure enfin les retombées du site Le Bon Coin. En 10 ans d'existence, ce site des bonnes occasions touche un tiers de la population française. Il n'y a vraiment plus que l'Opel Corsa de Benoît Hamon qui n'a pas trouvé preneur.
Tu l'achètes ou quoi?
Non, ça m'intéresse pas.
Mais achète-la.
Ça m'intéresse pas, je te dis.
Mais je te dis, achète-la.
Non, ça m'intéresse pas, je te dis.
Mais je te dis, prends-la.
Je suis accompagnée de celui qui est à la recherche de l'intégrale vinyle de Michel Thor, oui, qu'il voudrait acheter aux enchères et en os. C'est Alex Vizorek.
Oh là, le jeu de mots du lundi.
Attention, il y a du jeu de mots. 17h30 aujourd'hui, parce que j'ai une belle équipe à vous proposer. Celle qui a fait un cauchemar cette nuit. Elle s'est réveillée en sueur parce qu'elle s'est vue présenter en duo avec moi le top 50 sur Chant de France. C'est vous, Mélanie Bauer.
Oui, non, je suis sûre qu'on rigolerait. Oui, on rigolerait. Aujourd'hui, je vais parler du disque et du concert de notre invité.
Très bien, 17h30, celui qui hier a pris le risque de se faire tirer comme un lapin en essayant d'aller répondre à la grande question: quelle est la différence entre un bon et un mauvais chasseur, Guillaume Meurice?
C'est vrai, bonjour Alex, bonjour Charline, bonjour à tous. Je vais vous faire une petite visite du salon de la chasse aujourd'hui. Salon qui présente des innovations, voire des révolutions.
La grande révolution de cette année, c'est le nouvel impôt qui a un son terrible.
Voilà, le Robespierre de la peau. La révolution.
Et 17h40, il a un prénom de philosophe grec antique et pourtant il n'est que philosophe contemporain et c'est les autres qui l'envoient se faire voir chez les Grecs. C'est vous, Hippolyte Girardot, bonjour.
Bonjour.
De quoi on parle?
De l'autre moitié du monde.
Voilà, c'est toujours intéressant quand vous nous donnez d'infos sur votre chronique. Ça donne
ça pousse une tension. On se dit vivement la chronique d'Hippolyte.
Je rappelle que notre émission est présente dans un monde virtuel, oui, sur Twitter, hashtag annule tout, et sur Facebook, où vous pourrez comprendre pourquoi Guillaume Meurice a du mal à se faire accréditer au MEDEF ces derniers temps. Je vous laisse aller voir sur les pages de l'émission. Allez, voici celui qui a tout annulé pour la présider justement cette émission. Vous êtes auteur, compositeur et interprète depuis 25 ans. Vous avez publié 11 albums studio. Vous avez notamment chanté La Chauve-Souris, Les Malheurs du Lion ou Deux Pieds. Vous êtes sur Inter, tout le monde vous a reconnu déjà. Vous êtes...
Je suis Thomas Fersen.
Oui, bien sûr, c'est lui.
Sur France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, si tu écoutes, j'annule tout.
Bonjour Thomas Fersen.
Bonjour Charlie.
Vous êtes venu comment à pied
en entre Biarritz et Lille. J'étais de passage.
Et ce qu'on ne dit pas, c'est que vous avez été bon camarade. Vous avez répondu sérieusement à cette question.
Et qu'est-ce que j'ai répondu?
Vous avez dit c'est des problèmes économiques, on essaye de ne pas faire trop de voyages, de ne pas trop déplacer les équipes. Donc...
C'était pas terrible.
Oui, mais la question n'aidait pas.
Vous racontez à l'auditeur que c'était notre deuxième émission sur cette antenne. Et déjà, on disait pas mal de conneries. Thomas Fersen, vous venez nous voir avec un nouvel album sous le bras qui est le 11e album studio, celui-là en indépendant. Pourquoi vous rigolez, Mélanie Bauer ?
C'est un petit peu le 10e.
Ça n'est que le 10e.
Ah, c'est vrai ? Mais... Alors j'ai lu 11 et 10. Et alors,
on continue les conneries. Hein, oui.
Attendez,
vous portez la poisse en fait à Charlie.
Je vais retrouver ça.
On vous souhaite un 11e album, mais vous prenez mal. C'est quand même limite.
C'est possible. Ben, ça commence avec le bal des oiseaux. J'ai compté le dernier Thomas Fersen and Ginger Accident.
Ouais, il fait partie du lot.
Ouais, mais il n'y en a pas 11.
Je pense qu'il est au courant, le gars.
Les ronds, Carole.
On va essayer de tout.
Il y a eu un disque de chansons réenregistrées en studio.
Ah, ouais, mais il met des feintes aussi.
Voilà.
Allez, entre Lille et Biarritz.
Allez, 10 et demi, on vous le met.
Le 10e album, alors. Ça s'appelle Un coup de queue de vache. Et vous êtes en tournée dans toute la France. Et en ce moment, on peut vous voir au Théâtre de l'Œuvre. Alex Vizorek, comme la dernière fois, c'est moi qui dis plein de conneries à Thomas Fersen, je vais vous laisser faire, je préfère.
Alors, moi, j'ai écouté l'album, j'ai pas vu le spectacle. C'est Mélanie Bauer qui en parlera tout à l'heure. Elle a pas voulu me raconter, elle m'a dit tu entendras. La dernière fois que vous étiez venu, c'était pour un album dont la thématique était plus les monstres, ces choses-là.
Ah oui, ça fait si longtemps.
Et oui. Et cette fois-ci, on est plus sur le côté la ferme, la campagne. Est-ce que vous avez besoin de vous imposer une thématique, des images pour faire tout un album sur...
La vérité, c'est que j'ai commencé à écrire une chanson et que j'ai pris beaucoup de notes sur cette chanson qui ont fait naître donc une deuxième, une troisième. Bon, ça, souvent, ça se passe comme ça. Et puis cette première chanson, c'était une chanson sur une petite fille des champs. Mmh. Et j'ai voulu faire une famille, donc je lui ai inventé son... frère adolescent, Benjamin au port de l'adolescence qui diabolise les pieds de vache et les soutiens-gorge, le père qui est affublé par la pénibilité des champs, affligé plutôt, va voir une rebouteuse géante qui lui fait danser la pachanga. Je lui ai inventé une famille, une sœur aînée qui va faire du burlesque en ville. Et voilà comment s'est fait le disque.
Et vous avez toujours besoin de partir du réel et puis d'y amener un peu d'onirique, parce que vous trouvez que le réel se suffit pas à...
Parce que j'ai l'esprit un peu, disons, satirique, rêveur, j'aime dilater les choses que je vois et augmenter.
C'est votre vie privée ne nous regarde pas.
Je l'ai vu venir, celle-là. Et le plus possible.
Oui. Mais on n'est pas très très loin de la comédie musicale quand vous choisissez une thématique.
C'est vrai que maintenant je fais dialoguer mes personnages et que j'aime raconter des histoires. Oui. Donc, et que peut-être petit à petit on s'approche de ce genre, enfin à pas de fourmis quand même.
C'est-à-dire est-ce que votre Émilie Jolie pourrait arriver un jour par exemple?
Non, je suis pas très grande famille de chanteurs.
Ah non, je parlais de plutôt de la thématique que de...
Ah là, on sait que vous n'aimez pas les autres.
Hein. Ah oui, voilà.
Et ils vous le rendent bien, d'ailleurs. Non, mais l'idée que, justement, il y a une histoire avec peut-être un début, une fin, qui serait peut-être écrite au départ pour...
Alors, j'ai un conte musical dans mes affaires qui s'appelle Cugel l'Astucieux, qui est une adaptation d'un roman de Jacques Vance, qui m'avait été conseillé à l'époque par Joseph Racaille, qui est un ami proche, puisqu'il fait les arrangements de ce disque. Il avait déjà travaillé avec moi dans le passé. Et c'est l'histoire d'un type qui est projeté dans le futur, enfin dans une île où on voit le monde, un monde merveilleux à travers des lunettes, des verres de couleur. Et évidemment, il va essayer de dépouiller les aristocrates pour se procurer cette lunette. C'est assez amusant, c'est assez étrange, mais c'est l'illusion du monde merveilleux qu'on peut voir à travers une paire de Ray-Ban, si vous voulez. Voilà.
L'univers dilaté de Thomas Fersen.
Et les rimes de Thomas Fersen, c'est ça qui est très bien.
Oui, dans le nouvel album, Un coup de queue de vache.
Il y aura du live.
Oui, il y aura du live tout à l'heure, on vous entendra, on sera dans le concret et puis dans la chronique de Mélanie Bauer aussi. Et en ce moment, vous êtes au Théâtre de l'Œuvre et puis je donnerai quelques dates car vous êtes en tournée en France.
La fameuse tournée.
J'aurai des questions à ce sujet, Thomas Fersen. Justement, je me suis perfectionnée en quelques années. Vous êtes sur France Inter, il est 17h17. Fesse
sagari neko ay 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 brigadier sagari neko kutubu sakiji brigadier sagari neko patisangana nyongotine sorodugu
Gadier Sabari, Alpha Blondie and the Native Rebels, anti-système. Et c'est Maxime Ingrand à la technique qui nous a mis le CD disque. Dans le disque, dans le
manche
lecteur,
disque.
Dans le manche
ouais,
disque.
Il a appuyé sur play.
Effectivement. Et dans notre manche disque à nous aujourd'hui, il y a un coup de queue de vache de Thomas Fersen qui nous accompagne jusqu'à 18h. On l'entendra tout à l'heure en live, dites donc.
Oui. Quand je vous parle des rimes de Thomas Fersen, ça inspire les auditeurs qui nous ressortent. Tes lèvres, Louise, sont des portes d'église où j'entre le matin, le chapeau à la main. Ils auraient envie d'en écrire, donc continuez, hashtag annule tout. Autour de la table, pour entourer Thomas Fersen, nous avons Mélanie Bauer qui parlera de son spectacle. Guillaume Meurice qui a été chassé.
Salon
et Hippolyte Girardot, je pourrais pas bien vous dire de quoi il va parler parce que lui-même est bien incapable de nous l'expliquer.
Là, c'est précis.
Et la poésie de l'actualité.
Ah, s'il en est.
Ça n'est pas moi seulement qu'on assassine.
Le journal de presque 17h17.
À moi, à l'assassin !
C'est l'élection présidentielle.
Et on commence par les titres.
Interrogé lors de son déplacement à La Réunion sur la situation qui paralyse la Guyane, Emmanuel Macron a gaffé. Il a parlé de cette région d'outre-mer comme d'une île.
Mais oui, au lieu d'épouser sa prof de français, il aurait mieux fait d'épouser sa prof de géo.
Jean Lassalle était ce matin sur LCI et il se voit au second tour.
Oui, donc vraisemblablement la légalisation du cannabis est aussi dans son programme.
Il y aura des brèves.
Mais bien sûr, et pourtant des brèves après des propos de Jean Lassalle, c'est pas évident.
Commençons par rappeler que ce week-end, nous avons changé d'heure. Tous les Français ont perdu une heure de sommeil.
Oui, sauf Vincent Lambert, bien évidemment.
Emmanuel Macron a donc dit de la Guyane que c'était une île.
Mais mince, il va falloir le prévenir peut-être pour l'Île-de-France. C'est un autre piège.
Ça va être,
pas
ça
tomber
va être un
dedans.
Choc.
Pas tomber dedans.
Choc, ça. Oui, alors il n'est pas à une approximation près.
Hein. Eh bien non, puisqu'il se définit de gauche. Donc, voilà.
Côté François Fillon, on a appris qu'il s'était également fait offrir deux montres d'une valeur totale de 27 000 euros.
Si tous les Français avaient les mêmes amis que François Fillon, la Française des Jeux ferait faillite.
Fillon qui s'est également défendu sur l'affaire des SMS pendant le débat, il a dit que ce n'était pas pour avoir des conseils de sa communicante, qu'il regardait son téléphone, non, c'était pour avoir l'heure.
Avec des montres à 27 000 boules, ça c'est quand même pénible.
Passons à Jean Lassalle, qui était ce matin sur LCI.
Oui, et le journaliste lui a parlé un peu sondage.
Quand je pense que le sondage d'opinion me trouve à 1%, il faut quand même beaucoup d'imagination, alors que partout où je vais, je l'ai encore vu hier soir au Salon du Livre, je crée un véritable tourbillon.
Votre tourbillon va vous amener jusqu'où, à votre avis?
Jusqu'à l'Elysée.
Le tourbillon Jean Lassalle, hein, comme on dit entre nous. Et puis il revient un peu sur son programme.
Jean Lassalle, vous dites que votre programme, vous allez le dévoiler dans quelques jours. Il n'est donc pas encore finalisé, votre programme? Parce que dans 4 semaines, on connaîtra l'affiche du deuxième tour, là.
Oui, bon, de toute façon, il est quasiment connu. Ce sera certainement Mme Le Pen, puisqu'elle est installée d'office contre moi.
Ben voilà, le silence derrière du journaliste est impressionnant. Il s'y attendait pas du tout à ça. Mais attention, Jean Lassalle est sur le coup parce que...
4 semaines, c'est énorme. Je suis l'homme du finish, de ligne droite, d'une certaine forme de panache aussi. Et c'est ce que veulent les Français.
L'homme du finish. Et pour terminer, François-Xavier Ménage lui pose la question que tout le monde se pose.
Mais est-ce que vous adorez faire le con?
Non, mais je fais pas le con, à vrai dire. Personne n'aime faire le con.
Et voilà, c'est bien ça, Jean Lassalle. Ben moi, je lui souhaite, figurez-vous.
Revenons à Marine Le Pen. Lors de sa visite à Moscou, elle a posé en photo avec un député russe antisémite et homophobe.
Oui, le gars s'est excusé. Il a dit qu'il ne savait pas qui elle était et qu'il n'aurait jamais accepté le selfie. Sinon.
Culture à présent.
Oui, après les déclarations de patrimoine, le JDD a publié ce week-end des préférences culturelles des présidentiables.
Et François Fillon est fan de Sting.
Oui, le chanteur de Police. Notons que la Police, elle aussi aime beaucoup François Fillon.
Pour Benoît Hamon, son film préféré, c'est Apocalypse Now.
Apocalypse Now, aussi le résumé de la situation au PS.
Et Emmanuel Macron aime Johnny.
Mais oui, entre mecs qui crient sur scène, on se reconnaît.
International à présent, la compagnie américaine United Airlines a empêché deux adolescentes d'embarquer parce qu'elles portaient des leggings.
Oui, c'est donc Christina Cortula qui est le nouveau PDG de United Airlines.
Télévision justement, ce soir dans Dossier Tabou. Oh là là, sur M6, consacré au cannabis, on pourra voir Bernard de la Villardière fumer un joint pour une expérience.
Voilà, vivement le dossier tabou, spécial prostitution.
Allez, deux petites brèves.
Oui, Montpellier, il se masturbait dans l'herbe pour se sentir utile.
Ah bah c'est vrai que ça le rend bien utile, ah bah, ça d'un
coup. Le mec refuse qu'on pense qu'il n'en branle pas une, hein. Ça c'est clair et net.
La dernière.
Oui, la dernière, je suis assez content, en Suisse. Cocu virgule, il vandalise l'auto de sa femme qui était à lui. Après les ivres virgule, les drogués virgule, nous avons donc les cocu virgule, et je me réjouis déjà.
Un coup de queue de vache, Transition, oui. C'est le nouvel album de Thomas Fersen, qui est en tournée en France. Le 4 avril, vous serez à Saint-Priest et le lendemain à Yssingeau. Il y a un lien
Rhône-Alpes.
Ah bah voilà, c'est ça.
Bim.
Hein, après, vous serez par exemple à Bressure le 8 avril, mais 5 jours après, c'est Poitiers.
Pas loin non plus.
Pas loin non plus. Et puis Bordeaux. Donc ça, c'est logique. Je suis très, très soucieuse de, l'organisation de la tournée de Thomas Fersen.
C'est depuis que vous lui avez dit qu'il fait gaffe. Ça, je peux vous dire. Avant, il faisait n'importe quoi.
Allez, on va aborder ce premier sujet avec vous. Dans cette campagne, la culture a été oubliée. Non, attendez, je recommence. C'est pas ça. Dans cette campagne, la culture... On s'en tape! C'était ça le lancement. En revanche, quand il s'agit de s'adresser à son auditoire, là, on n'oublie pas d'étaler la sienne.
Je ne suis pas leibnizien dans l'écriture de l'histoire.
Oh mon Dieu! Est-ce qu'il sait ce qu'il dit?
Là, honnêtement, je saurais pas dire.
C'est pour ça que je ne vous le dis pas aujourd'hui, parce que ce serait intempestif, au sens nietzschéen du terme.
On aurait pu dire n'importe quoi d'autre, d'ailleurs. Perceval, tiens, dites une phrase au hasard pour voir.
Et c'est, ce faisant, ne pas donner sens à un passé qui est la condition de construire un futur.
Ok. Alors, on va demander un interprète.
Tu es le confluent d'un fleuve dans lequel tu t'inscris. Qui est justement ce roman et ce récit?
Interprète!
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 C'était donc Emmanuel Macron sur France Culture, mixé avec des extraits de Kaamelott. Donc c'est une vidéo qu'on trouve sur Internet qui a été montée par, alors on a vérifié par Léa, qui serait un soutien de Mélenchon. Ah, c'est rigolo les soutiens de Mélenchon. Alors Thomas Fersen, la culture a droit à quelques lignes dans le programme de la plupart des candidats, mais elle est totalement absente des débats. Est-ce que vous, en tant qu'artiste, ça fait que vous vous sentez un peu exclu de ces débats de la campagne?
Bon, nous sommes toujours le parent pauvre, mais on parle plus du pantalon de Fillon que du... mais sans parler que nous, on fait les poches des nôtres, hein, depuis déjà quelques années. On ne sait pas très bien où ça va nous ramener, dans nos caves probablement, d'où nous venons, et dans les cabarets, dans les lieux, dans le spectacle vivant. Mais le spectacle vivant, je pense, réussira à passer à travers, parce que ça échappe à l'industrie.
Mais vous avez été décoré, vous, non?
J'étais décoré deux fois, dont une fois par la poste. Je vous assure que c'est vrai.
C'est-à-dire?
Eh bien, j'ai reçu une promotion supplémentaire aux arts et aux lettres, et c'est arrivé par la poste, une médaille avec une lettre.
Ah,
ouais. Donc du coup, je regarde le matin quand même, c'est voir si...
Vous avez fait une cérémonie chez vous, en famille?
Non, j'étais assez surpris de recevoir ça, comme quoi... Bon,
est-ce que c'est ça, soutenir la culture, récompenser des gens qui sont déjà récompensés par le public, comme vous, quelque part, alors que peut-être faudrait soutenir la jeune création?
Moi, je pense que c'est une vitrine, ces histoires de décoration... Mais bon, moi, c'est pas moi qui vais refaire ce système-là. La culture, effectivement, est en souffrance, mais ça fait un petit moment qu'on est abandonné. Mais comme d'autres, évidemment, c'est un peu délicat de la ramener, parce que la culture, ça paraît toujours superflu. Et bon, mais on est abandonné depuis longtemps.
Qu'est-ce que vous attendriez du politique si vous
pouviez lui demander deux, trois choses, les premières choses évidentes.
Le problème, c'est que comme on nous fait les poches, il y a eu énormément de suppressions d'emplois dans le milieu de la musique. Mmh. Des milliers d'emplois dont on ne parle quasiment pas. Et c'est ça le problème, c'est que c'est un secteur qui est créateur d'emplois. Mmh. Mais comme quand on est producteur, c'est mon cas parce que je suis autoproducteur, on ne récupère pas l'argent qu'on a investi, on peut plus employer. Moi, je travaille avec des équipes très réduites par rapport à encore il y a quelques années, quoi.
On sent un fatalisme, c'est-à-dire que vous dites bon, on a toujours connu ça.
L'artiste, en tout cas le musicien, oui, est fataliste de naissance, parce que c'est un métier précaire et que on doit fabriquer son propre travail. Et que on n'a jamais pu se projeter à long terme. Donc, on a été protégé à une époque. À une époque aussi, la culture, c'était quelque chose de précieux, que ce soit pour les élus de droite et de gauche. Ces élus sont renouvelés par une jeune génération qui en a rien à foutre. Dis tout net, je parle, moi, avec les programmateurs des salles, justement, dans les petites communes. Et ils ont beaucoup de mal au conseil municipal à faire valoir leur programmation. On leur demande des choses qu'on voit à la télé, des choses peut-être plus facile.
Des visorecs, enfin, et compagnie.
Par exemple,
on voit bien.
Mais le changement peut venir de la base, alors, de nous, auditeurs, spectateurs.
Je pense que c'est, qu'on restera curieux et qu'on aimera le spectacle vivant. De toute façon, ça a toujours existé. Ça a existé avant l'industrie du disque, avant l'industrie des médias, etc. Donc, ça existera toujours. Après, on retourne dans un métier qui n'est pas conseillable, qui n'est pas recommandable pour ses enfants. Voilà.
Alors, parlons d'un producteur indépendant, Thomas Fersen.
Oui.
Oui, vous avez monté votre label d'ailleurs.
J'avais une société d'édition depuis 1997 et c'est cette société d'édition qui a pris le relais effectivement du label parce que j'en suis parti parce que ça ne m'intéressait plus de travailler avec des contraintes qui devenaient trop près de moi, voilà, qui s'approchaient de moi de façon pénible.
Alors des contraintes dans votre spectacle, il y en a. Il y en a beaucoup. Il est 19h01 au Théâtre de l'Œuvre et je suis en retard. Alors le spectacle a commencé, j'ai déjà loupé la première chanson. Alors ça s'affiche un petit coup au parisianisme, cet horaire. Début du concert, 19h.
Pourquoi ? Parce que nous sommes au théâtre privé et donc il y a un spectacle après et parfois même avant.
Ah, d'accord. Donc moi, je pensais que c'était vous qui vous couchiez tôt. Vous nous l'avez dit plusieurs fois.
Oui.
Je vais faire ma chronique, d'accord ? Vous m'écoutez pas trop. Donc ici, non seulement l'heure, c'est l'heure, mais on se couche avec les poules et aussi les coqs et les cochons et les vaches. C'est marrant, cette basse-cour et cette tranche de vie rude accompagnée par des cordes, on dirait un oxymore. Sur scène, rien que des instruments en bois, violon, guitare classique, ukulélé, un orchestre de chambre au milieu d'une cour de ferme. C'est d'ailleurs un peu ça, ce disque, un coup de queue de vache, un classicisme élégant pour des chansons de salopette. On se régale de vos personnages. La coccinelle du précédent album avec Ginger Accident devient prétexte à vous montrer nos fesses pour voir si votre grain de beauté noire nous réunit ce soir.
Lui, mon père m'a donné un grain de beauté noire tant il était nanti, transmis comme un trésor à chaque nouveau-né et porté à la fesse par notre dynastie.
À noter d'ailleurs, demain à Paris, Slow Joe de Ginger Accident, concert hommage. On avait parlé de Slow Joe qui est décédé il y a quelques temps. Ce sera au Café de la Danse. C'est une petite parenthèse, ça n'a rien à voir avec vous. Mais revenons à nos moutons. Non mais si, parce que vous avez travaillé avec le Ginger Accident cet album. Évidemment. Revenons à nos moutons. Dans vos interviews, Thomas Fersen, vous parlez de l'influence des chansons paillardes dans vos textes. Mais vous êtes bien trop élégant pour être paillard. Les mots et les images sont choisis avec soin et le travail sur les arrangements du disque et du concert sont loin d'être grossiers. Non, vous êtes plutôt coquinou, Thomas Fersen, comme le petit garçon qui n'a pas les rayons.
Une vache à robe pie, au lieu de compter ses tâches, je regardais ses gros pies. Ils étaient de toute beauté, de véritables merveilles, et de les voir balloter m'avait ôté le sommeil. J'avais mal au bas du bide, je suis allé voir le druide, il méditait sous un...
Alors, au bout d'une dizaine de chansons et d'histoires, vous nous dites alors, on va se coucher, comme un paysan qui verrait le soleil justement se coucher. Bah non, c'est bien trop tôt, on en veut encore, votre public vous aime, il connaît toutes les paroles par cœur, il chante avec vous, parfois même sans vous. Et on sait tous dans la salle que, quelle que soit l'heure, le public ne partira pas sans la chauve-souris.
Découpé dans la nuit, par goût du désespoir, car tout glissait sur lui. Une chauve-souris aimait un parapluie, aimait un parapluie.
Et ouais, cette chanson, elle vient d'atteindre la majorité, hein, 18 ans. Elle fait toujours taper dans les mains. Elle vous colle à la peau, cette bestiole. Encore quelques histoires en rime. Encore quelques histoires en rime avant de finir la soirée. Cette fois, c'est... on va se coucher. On va se coucher, on continue cette chronique. Ça va, c'est pas trop tard. Il y a une pudeur dans ce spectacle. Il y a une pudeur à utiliser la fable pour se raconter soi-même. J'ai d'ailleurs hésité à faire ma chronique en rime et puis je me suis dit, magnanime, que je n'avais pas votre talent et que ça pourrait devenir très vite chiant, une critique qui se prend pour un poète. C'est vraiment bête. À 20h30, après une heure et demie de concert, on est à la rue, tout déboussolé, perdu dans le temps. La soirée est-elle commencée? Vient-elle de se terminer? C'est comme ça, la campagne. On se couche tôt et on fait gaffe aux coups de queue de vache.
Merci Mélanie Bauer.
J'ai presque réussi à la faire en entier. Hein.
Et là, est-ce que ce serait pas le moment?
Là, il va bosser un peu.
Oulala. Le moment où de l'illustration musicale et sonore. Présentez-nous votre binôme, Thomas Fersen. Vous n'êtes pas venu seul aujourd'hui.
Je suis venu avec Raphaël Maillet qui va jouer du banjo. Et moi, je joue du ukulélé. Voilà. Hein, c'est bien ça. 3, 4. Vous voyez, le fameux coup de queue de vache.
Ma vie est celle d'un coq de ferme. C'est moi qui chante pour dire on ouvre. C'est moi qui chante pour dire on ferme. Et les poulettes, ben je les couvre. C'est pas mal, je la croisais dans le quartier. J'allais faire la danse nuptiale. Quand elle m'a vu, sans monde entier. Depuis que j'ai eu mon accident, j'ai perdu un peu de mon panache. Et puis j'ai perdu toutes mes dents. J'ai pris un coup de queue de vache. J'étais monté sur le tracteur, je m'apprêtais à donner l'heure. Lorsque j'ai vu un parapluie, je me suis précipité sur lui. Ce parapluie, quel drôle de mec, je lui ai donné un coup de bec. Je ne sais pas ce qui m'a pris autour de moi. Tout le monde a ri. Depuis que j'ai eu mon accident, j'ai perdu un peu de mon panache. Et puis ça va pas bien là-dedans, j'ai pris un coup de queue de vache. J'étais sur la margelle du puits, où était-ce la cage à lapin? Je ne sais plus, il faisait nuit, j'interprétais mon beau sapin. On était à roi des forêts, on m'a lancé un tabouret. Je voulais chanter frère Jacques, on m'a fourré au fond d'un sac. Depuis que j'ai eu mon accident, j'ai perdu un peu de mon panache. Et puis ça va pas mieux là-dedans, j'ai cru qu'on jouait tout ça cache-cache. Après quoi on m'a présenté une jolie cocotte en fonte. Et il faisait chaud comme en été. Je me suis dit tiens, la chaleur monte. On m'a offert un verre de vin, on m'a servi des champignons. Je ne raconterai pas la fin, mais j'étais aux petits oignons.
Thomas Fersen, coup de queue de vache.
Ça donne faim. Hein.
Accompagné au banjo, c'est ça?
accompagné au banjo. Rappelez-nous le nom de votre musicien au banjo.
Raphaël Maillet.
Raphaël Maillet, merci Raphaël. Merci Thomas Fersen. Vous êtes au Théâtre de l'Œuvre, donc jusqu'au 1er avril à 19h01 pétante.
Non, 19h pétante, parce qu'à une,
ah
c'est
oui,
commencé.
Une, c'est déjà commencé. 19h pétante et dans toute la France. On quitte la ferme pour la chasse. Ah. Ça va faire mal, c'est Guillaume Meurice, Thomas Fersen.
Mais oui, mais je vais vous parler aussi de la campagne, finalement. Alors, pas de la présidentielle, hein. Je vais vous parler des pigeons, des vautours et des hyènes. Mais pas de Fillon, Le Pen, ni Macron en fin de meeting. Je vais vous parler des vrais animaux. Parce qu'en ce moment même a lieu donc le fameux Salon de la Chasse à Mantes-la-Jolie. Salon international. Attention, ça rigole pas. Évidemment, je m'y suis rendu avec ce besoin de comprendre qu'est-ce qui peut bien plaire à un être humain dans le fait de dérouiller des animaux. Quelles sont donc les joies de la chasse?
Ouais, dans une minute tous ensemble. On pète, on se sent les pieds, tout ça. Et il y a un bonding qui se fait.
Un quoi?
Bonding.
Qu'est-ce que c'est?
Bonding, une union.
On pète, on pue les pieds, donc
ouais,
il y a une union.
Voilà, il y a une union, il y a une union de mâle.
Ah, une union de mâle. Ça, ça fait envie, hein. On croirait un porno gay, mais non, c'est la chasse. Hein, laissez tomber, vous pouvez pas comprendre, hein, Mélanie et Charline. Vous vous pétez, vous puez les pieds, mais chacune dans votre coin. Ça n'a rien à voir. Une partie de chasse, c'est pas ça. Par exemple, buter un lion, ça fait quoi?
De voir un super animal qui est sur son terrain et que c'est le roi là-bas et qu'on arrive à l'achever finalement, on a de la peine, mais en même temps, on a quand même réussi quelque chose et on a la chair de poule.
Ouais. Mais vous avez quand même de la peine?
Ouais.
Mais pourquoi alors?
Parce que c'est le roi dans son domaine.
Ah oui, d'accord, mais bon, bah vous avez un fusil quand même. Donc.
Ouais, mais lui, c'est pour ça. On a tué quelqu'un qui est le roi dans son domaine et on l'a tué. Mais vous comprenez ce que je dis ou non?
Non, absolument pas. Mais ce qui est clair, c'est que ce monsieur, en plus de buter des rois des animaux, il encule des mouches. Hein, donc on est sur une double maltraitance animale. Continuons notre visite du salon avec un organisateur de chasse à l'ours.
L'ours se chasse sur Mirador. Sur ah oui. Mirador, les ours sont appâtés, vous voyez. Et sur Mirador...
Et alors ils appâtent l'ours avec des...
Ils appâtent l'ours avec du miel.
Et l'ours vient manger le miel et bam.
Voilà.
C'est un peu une technique de chasse de feignasse, non?
Oui.
Oui, c'est ça qui coule, hein. T'as même pas besoin de te bouger le cul, tu te poses dans un transat, tu balances un pot de miel et tu défonces des ours à bout portant. C'est le panard. Alors attention, je vous vois venir. Les chasseurs aiment les animaux, hein. Ça, ah on oui, le bah sait. Oui. Ce monsieur, il aime les chiens, par exemple. Il adore ses chiens à lui, il les adore tous, même s'il a son préféré.
Et j'en ai prénommé un, vous voyez, qui a 5 ans. Je l'ai prénommé Garou, comme le chanteur. Vous verriez ce chien, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il faudrait que je vous fasse voir en photo, c'est quelque chose d'extraordinaire.
Pourquoi vous l'avez appelé Garou?
Garou, c'est un phénomène.
Mais parce que vous aimiez bien le chanteur?
Oui, j'aimais bien le chanteur. Je vous dis, vous pouvez pas vous imaginer ce chien, il est d'une gentillesse. Il lui manque que la parole.
Non, merci. Si c'est pour le faire chanter en duo avec Céline Dion, non merci. On préfère qu'il continue à aboyer, quitte à ce que ça ressemble à du maître Gims. Alors, avec ses chiens, il chasse pas l'ours, hein, bien sûr, parce qu'en l'occurrence, je donne pas cher de la peau de Garou contre un ours de 150 kilos. Mais ce monsieur chasse les bécasses.
Garou, c'est un chien exceptionnel. Vous voyez, l'an dernier, sur la saison donc 2016, sur 5 semaines, il a fait tuer 300 bécasses.
300, c'est énorme.
Sur arrêt et tiré par un chasseur.
3 sur bécasse sur 5 semaines, c'est pas mal. Bravo Garou, le docteur Petiot de la bécasse, hein, comme il convient de l'appeler désormais. Alors attention tout de même, le chasseur n'a pas pour ennemi l'animal. L'ennemi du chasseur, c'est le vegan, hein, n'est-ce pas, monsieur le chasseur?
Ils mangent pas de viande, ils boivent pas de lait. Tu sais. Ils vont aux toilettes, ils prennent quoi? Du papier de verre? Ah non, il y a du papier, on prend pas. Ça a été fait dans...
Le papier, c'est pas un animal.
Non, mais si on pousse le tout plus loin, c'est des malades.
Ah ouais, vous pensez?
Bien sûr. Donc à mourir.
Mais bien sûr. Ils meurent, hein. D'ailleurs, les véganes meurent. Hein. On le voit tous les jours, il y a des accidents de véganes qui remplacent le PQ par du papier de verre. On les retrouve dans les toilettes au milieu d'une flaque de sang. Tiens, puisqu'on parle de mort, parlons de ce beau sweatshirt vendu sur place sur lequel on voit un homme pendu à un arbre avec ce slogan « Pendons les écolos pendant qu'il reste des arbres ». Alors c'est rigolo, hein. C'est de l'humour de chasseur, mais c'est rigolo quand même. Explication avec le vendeur.
Bah, c'est un petit peu un message de ras-le-bol vu ce que les écolos nous font subir à nous les chasseurs.
Mais je croyais que les chasseurs étaient écolos, moi.
Oui.
Ah oui, mais alors vous êtes pour votre propre pendaison?
Non, pas du tout.
Bah du coup si.
Non, le terme écolo, c'est vraiment pour celui qui se dit écolo.
Si vous venez de me dire que vous étiez écolo, attention.
Ah oui, on en est, mais ah bah voilà. On ne porte pas le nom.
Ah oui, voilà, on le sait, le chasseur est un écolo caché derrière un gros calibre, un 4x4 et un cubit de rouge. Il aime la nature, hein, le chasseur. Bon, alors comme un pédophile aime les enfants, disons qu'il aime à sa manière. Mais attendez, qui sommes-nous pour juger? C'est ainsi que nous sommes en mesure de conclure avec cette citation qui pourrait bien être la devise des chasseurs du monde entier.
La nature est plus forte que tout. jusqu'à une certaine limite, faut pas exagérer.
Voilà, c'est vrai que la nature avec une balle dans le museau, elle fait moins sa maligne quand même. Tout comme l'être humain quand il aura fini de tout saccager et qui comprendra que le blaireau, c'est pas forcément celui qu'on croit.
Et comme disait Frédéric Dard, la chasse au con est un safari sans espoir.
C'est vrai, c'est
merci
beau.
Guillaume Meurice. Vous êtes revenu sain et sauf, ça nous fait bien plaisir pour accueillir Thomas Fersen qui est en tournée dans toute la France. En mai, vous serez à Chambon-Feugerolles, le 13 mai à Moulins. Et le 17 mai au Creusot, dans le 71. On va aborder un deuxième sujet. Pardon, qu'est-ce qui se passe?
Ça fait beaucoup rire, Pouli Girardot.
Oui, bon, l'histoire de la tournée et Charline, c'est vraiment une, bonne idée. C'est une super idée.
Il part de Saint-Priest et il arrive au Creusot. Et moi, je m'intéresse de très près à l'empreinte carbone de la tournée de Thomas Fersen avec Raphaël Maillet. Allez, sujet 2, grève générale en Guyane. La Guyane se rappelle au beau souvenir de la métropole qu'il a clairement abandonnée à son sort. La pauvreté, la vie chère et son corollaire, l'insécurité. Elle n'existe aux yeux de Paris que pour l'or, les fusées, les multinationales. Que dirait la Guyane à l'État français si elle pouvait parler d'une seule voix?
Parfois, je me sens seule, abandonnée, comme si on me lâchait la main en pleine nuit, au fond d'un parc. Alors seule, comme abandonnée, au bord d'une autoroute, je lutte.
Isabelle Adjani dans Toxic Affair, vous avez reconnu. Il
oui,
Gérard,
bah oui, j'ai joué dedans.
Ah bah oui, c'est vrai.
Je disais, mais je connais ce truc.
Ah bon, Julien, quel rôle, je ne me rappelle pas.
Son amant.
Oh là là.
Ça s'oublie pas. Sa voix, là. Attention.
Là, il va y avoir des questions des garçons.
Son ex-amant, ça va.
Ah d'accord, bon. Thomas Fersen, dans cette tournée, vous ne passez pas par la Guyane?
Eh non.
Non. Est-ce que vous êtes déjà allé en Guyane?
Jamais.
Jamais? Ça vous tente?
Oh, je suis curieux de nature, donc j'aimerais aller en Guyane un jour, oui.
Alors, ce morceau de France qui se trouve en Amazonie, qui se rappelle soudain gravement au souvenir de la métropole, ça déclenche quelque chose chez vous, tout ce qui est outre-mer, la distance? Parce que déjà, quand on est à Paris, puis qu'il y a la banlieue et derrière les régions, ça paraît déjà, avec cet état jacobin, rien que la banlieue derrière le périphérique, ça paraît déjà loin. Mais alors, j'ose pas imaginer, moi qui viens de Belgique, on n'est pas en empire colonial, nous, hein.
Non,
vous êtes plus.
On l'a pris
au même endroit.
On a tout rendu. ce rapport à l'outre-mer, on a l'impression qu'il y a, c'est la France et qu'il y a une distance folle. Vous la ressentez comment, vous?
Écoutez, c'est vrai que c'était des endroits qu'on ne connaît pas très bien, pour la plupart. Moi, je suis quand même allé à La Réunion plusieurs fois, je suis allé en Martinique.
Et vous jouez du ukulélé?
Le ukulélé vient d'Hawaï.
Oui, c'est Hawaï, bon, ouais. Bah, c'est les palmiers, tout ça.
Ouais. C'est allez, dès que vous avez une intervention de qualité comme celle-là,
la Guyane, c'est plutôt la mangrove.
C'est au-delà du périph', c'est
je pense
ce qu'on
qu'il
voulait
faut
dire.
Qu'on fasse un duo avec Charline aujourd'hui.
Oui, sur la tournée en général.
On est au
sur
top.
France Culture.
C'est ça.
Non, mais, nous, Belges, moi, par exemple, ce matin, la Guyane, je vois où elle est, ouais. Mais l'Empire français, je sais pas, la Polynésie, tout ça, je ne suis pas sûr même de pouvoir le replacer. Est-ce que les Français, on vous enseigne ça à l'école? Est-ce que vous connaissez ça bien? Ou est-ce que c'est un espèce de d'ailleurs?
En ce qui me concerne, je sais. Voilà, je sais.
Mais on vous l'a enseigné?
Je peux vous répondre pour les autres.
On vous expliquait comment c'était devenu français, pourquoi?
Oui, sans doute.
Non, mais c'est intéressant.
Moi, je ne crois pas. Hein.
Je ne crois pas que j'ai appris
ça à l'école.
Hippolyte Girardot?
Non, l'enseignement de la colonisation comme de la décolonisation n'est pas fait en France, bien évidemment.
Oui.
Bien évidemment, je dis parce que c'est un vrai problème qui, à mon avis, en crée plein d'autres pour les jeunes générations qui ne comprennent pas toujours ce qui se passe. Je pense que c'est un vrai problème de ne pas l'enseigner.
C'est la présidentielle qui met en lumière...
Alors que c'est passionnant, moi j'ai découvert l'île Tremelin il n'y a pas très longtemps,
qui a
failli être rendue à l'île Maurice, voilà. Parce qu'on a bien traité ce sujet, mais en tout cas on voulait juste afficher...
Non mais Guyane,
de...
ce qui se passe à Guyane, juste un tout petit mot comme ça,
ouais,
c'est tout à fait, c'est légitime, et je pense que ça peut aller extrêmement loin. C'est un pays qui est coincé entre deux pays très voleurs, le nord du Brésil, le sud du Suriname, qui sont deux états bandits sans aucune loi, qui sont soumis à des dingues qui vendent de l'or aux Chinois d'une manière totalement illégale.
Et
ce petit pays, la Guyane, qui essaye encore d'être administrée de manière ou d'une autre, n'a absolument pas les moyens de le faire. Donc si effectivement l'État n'intervient pas d'une manière extrêmement forte, C'est complètement foutu. C'est comme si le pays n'existait plus d'un seul coup.
En plus, en héritant des problèmes de ses voisins, comme vous le disiez, par exemple, les Haïtiens qui sont venus travailler pour la Coupe du Monde de football au Brésil. La Coupe du Monde est terminée, on n'a plus besoin d'eux et qui arrivent en Guyane. Voilà, on voulait juste afficher notre solidarité.
Tout à fait.
Avec, on se posait la question, la Guyane, est-ce vraiment la France, étant donné qu'il y a 37 syndicats qui ont réussi à se mettre d'accord pour la convergence des luttes, on est en droit de se demander si c'est vraiment la France. On salue la Guyane. Hippolyte Gérard, ouais. Tant que vous avez le micro, allez-y.
Oui, parce que vous comprenez, l'international, ça m'intéresse. J'ai vu qu'on sortait un bouquin qui s'appelait Les secrets de la place Beauvau. Alors évidemment, mon chef de service au bureau des légendes m'a dit, bon, il faut y aller, il faut bosser sur quelque chose. Et donc, ils m'ont envoyé, ils m'ont pris un billet d'avion pour partir pour Venise. Et ils m'ont demandé, ouvrez vos oreilles, Girardo. J'ai dit, ok, pas de problème. J'ai une couverture avec moi, comme tout agent secret, qui est un peu tiré par les cheveux, je dois le dire. Je fais partie d'une troupe de théâtre qui joue d'une pièce contre Monsanto et consorts. Bon, mes collègues, Peach, Bab, Mias, Roro, n'ont accepté la mission qu'en échange d'un risotto con granata et lisent attentivement la pièce à laquelle ils ne comprennent rien car c'est un vrai puzzle. Bref, je m'assois dans l'avion et pendant l'annonce...
Per assicurarla, usate l'elastico.
Je vois arriver au rang numéro 1 Penelope F, tailleur sur mesure, lunettes noires, sortant de son sac Burberry quelques billets qu'elle offre au steward avant de s'asseoir au 1F Hublot. Je note. Puis arrive Gabriel G, très chic, entièrement vêtu en Dior. Alors ça, moi, j'aborde, c'est comme les sportifs en Vasis d'As, je trouve ça vulgaire. Cela dit, la broderie du couteau dans le dos est très très réussie, je peux dire. Elle a la 1E, elle s'assoit et embrasse le tailleur sur mesure. Apparaît alors devant moi, comment dire, une chose, une nébuleuse, ah oui, un hologramme. Sophia C. Elle s'assoit directement à côté de Gabriel, à qui elle propose une barre au quinoa. Quand le steward veut lui demander son billet pour vérifier, elle lui demande si c'est parce qu'elle est arabe. Il répond « Mi scusi signora », elle le regarde genre bouche de la macho. L'annonce vient de se terminer, on va fermer la porte et on entend un grand bruit dans le sas et apparaît alors Brigitte. Brigitte T. D'un regard, elle toise les places 1F1E12 et se marre, faisant semblant de tirer sur sa mini-jupe. Elle attrape le biceps du steward, lui demande de lui désigner sa place tout en lui faisant un compliment sur sa belle musculature. Et s'assoit en croisant les jambes, renvoyant Sharon Stone au département antiquité du musée de la Louve. On décolle. On envoie la canzone italiana, la force des femmes, de Gigi. Alors là, j'ai beaucoup de mal, évidemment, à suivre la conversation, mais j'entends des trucs quand même. J'entends, je lui ai dit, ne fais pas ton sénateur radical sociaux, arrête l'andouillette, envoie-leur des vannes, traite-les de gazelles. J'ai entendu aussi, ah oui, c'est vrai, en géo, il a toujours été nul, 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 mais moi, je lui ai expliqué quand même le prédicat, qui je l'ai envoyé en H4, et sa voix. Non, il n'a pas une voix formidable. Quel acteur, non? Vous l'auriez vu dans Marivo. À ce moment-là, mes collègues, ma couverture, ont commencé à répéter la pièce en même temps.
Moins d'argent, tu comprends?
Alors, c'est très difficile de tout comprendre. Mais j'ai quand même réussi à entendre des trucs malgré le brouhaha. Pas sûr que ce soit exactement ça, mais j'ai entendu. Je lui ai dit à LM le cash. Je lui ai dit, on est pour le travail le dimanche à LM le cash. Alors démerde-toi, impose le revenu universel. Et à nous deux, on relance l'économie. Ah oui, puis il y en a une autre avec un accent qui a dit ma sœur a épousé son frère. Mais oui, Jane, ma sœur a épousé Pierre. Et donc je suis la femme et la belle-sœur de mon mari. C'est extraordinaire, on y a une vraie fiction de Jane Austen. Et c'est à ce moment-là que le commandant a pris la parole.
Bonjour, votre commandant Louis A vous souhaite la bienvenue à bord. Pour des passagères du premier rang qui pensaient partir faire leur enterrement de vie de dame pas encore première à Venise, on vient juste de changer de direction. Au lieu d'être en marche avec vérité, avec un cœur, avec la force, on est parti au nom du peuple pour Moscou. Allez, je vous remets quand même un petit coup d'Italie pour pas vous mettre trop en peine.
Mission accomplie, Hippolyte Girardo.
Merci chef.
Vous êtes toujours sur France Inter. Il y a Thomas Fersen aussi, quelle coïncidence. C'est chouette. Au troisième sujet avec vous, Le Bon Coin existe depuis 10 ans. Le journal Le Monde dévoile la première étude qui mesure les retombées de ce succès en France. Le marché de l'occasion redonne du sens à la consommation, car nous n'hésitons plus à acheter, voire à offrir du seconde main. De la seconde main, pardon, dit-on. Hein. De la seconde main. De la seconde main.
On peut dire les deux.
C'est la vie,
moi j'ai envie d'accepter les deux.
Ouais, ouais. Dans l'autre, il y a une ellipse, très certainement. En tout cas, attendez-vous à recevoir tout et n'importe quoi.
Les passoires qui ne laissent passer ni les nouilles, ni l'eau, ni dans un sens, ni dans l'autre, ces passoires-là, on les appelle des casseroles. Il y a trois sortes de casseroles. Les casseroles avec la queue à droite, les casseroles avec la queue à gauche et les casseroles avec pas de queue du tout. Mais celles-là, on les appelle des autobus. il y a trois sortes d'autobus. Les autobus qui marchent à droite, les autobus qui marchent à gauche et les autobus qui ne marchent ni d'un côté ni de l'autre.
Claude Pieplu, bien sûr, les Shaddock. Alors, est-ce que vous êtes déjà baladé sur le Bon Coin, vous, Thomas Fersen?
J'ai vendu un truc sur le Bon Coin. J'ai réussi à vendre une Vespa dans le Finistère Nord.
Alors comment vous faites?
On dirait une chanson de Thomas Fersen.
Vous profitez de la tournée pour y aller? Comment ça se passe?
Alors, je m'étais acheté une Vespa et puis finalement je me suis rendu compte que j'avais fait 80 km en deux ans. Et
ah oui. Mais comment on fait pour l'envoyer dans le Finistère Nord?
Je l'avais acheté à Quimper. C'était un dernier modèle parce qu'il a été interdit après. C'était un moteur de temps. On n'avait plus le droit à ça. Et puis moi je voulais le petit bruit du moteur de temps. C'est ça qui me plaisait. Et puis, mais finalement je ne m'en servais pas. Donc j'ai trouvé un garagiste italien que sa femme avait amené et qui donc, pour lui faire plaisir, elle a voulu lui offrir une... Peut-être qu'il était un petit peu triste. Elle lui a offert une Vespa. Oh,
ça fait des histoires. Et vos instruments, est-ce que vous les achetez neufs ou seconde main? C'est quoi? Est-ce qu'il y a un goût aussi pour peut-être acheter un instrument qui a déjà été joué ou pas? Vous avez quel rapport à ça, vous?
J'ai des instruments qui ont déjà été joués qui sont seconde main parce qu'ils sont vieux. Ils sont plus vieux que moi, d'ailleurs.
Par exemple?
Le ukulélé qui était là, il est 59, je crois. Donc forcément, c'est des instruments d'occasion.
Et puis, il y a d'autres exemples où, quel instrument vous voulez absolument acheter neuf, par exemple?
Oh, non, aucun.
Aucun?
Non. Comme j'aime les instruments acoustiques,
La vie des objets, c'est quelque chose qui semble vous inspirer, oui, vous aimez ça. Donc,
J'adore l'humanisation des objets. Les gens qui baptisent leurs objets, qui leur donnent une personnalité. C'est souvent le comportement de gens qui sont seuls, ils ont besoin de se créer un environnement affectif, et donc ils font vivre leurs objets. Ils sont attachés à leurs meubles. Hein, les personnes âgées, souvent, sont attachées à leurs meubles. Hein, donc ils ont besoin de ça pour se sentir leur existence. Quoi.
Mais le Bon Coin, c'est une sorte de brocante virtuelle. Et en fait, il y a une vraie âme à se balader dans une brocante. C'est peut-être, on y perd quelque chose à ça.
C'est tout le problème d'Internet en général.
C'est pas faux.
C'est que c'est déshumanisé, oui.
Mais ça permet d'acheter beaucoup de choses en seconde main, alors que plutôt que les acheter neufs, donc ça redonne, d'après l'étude qui est publiée dans Le Monde, ça redonne un sens un peu à la consommation et ça permet d'acheter, de ne pas surconsommer. Quoi. Oui. C'est la décroissance.
Mais un vrai brocanteur a quand même un rôle.
Ah, oui.
Il a un rôle parce qu'il choisit, parce qu'il retape, parce que... Donc c'est pas la même chose que le Bon Coin. Le Bon Coin, vous pouvez trouver vraiment des trucs affreux, difficile.
Genre un Vespa de temps.
Par exemple.
Qui est passé du Finistère Sud au Finistère Nord.
Alex vous a préparé un bon brol, un gros bazar, comme on dit chez nous en Belgique.
Exactement. En fin d'émission, on propose un sketch à l'invité, un rôle qui, je pense, n'a jamais été joué par vous, Thomas Fersen. Le rôle du psy de François Fillon. Parce qu'on sent qu'il ne va pas bien en ce moment. Il voit de la conspiration partout. Il se compare à Bérégovoy. Résultat, Pénélope l'emmène chez vous. On se rend tout de suite au cabinet. C'est Guillaume Meurice qui est évidemment le François Fillon de service.
Bonjour, docteur Fersen.
Oula ! Vous êtes bien ponctué, dites donc.
Oui, effectivement, j'ai 15 montres.
entrez.
Je me suis permis de venir avec mon assistante parlementaire, mon attaché de presse, ma secrétaire et mon épouse.
Mais vous n'êtes que deux.
Oui, c'est bien ce que je disais.
Allongez-vous. Je vous écoute.
Vous aussi, tu vois Pénélope, tout le monde m'écoute.
Calme-toi, François, tout va bien, c'est juste ton psy. Tu reconnais son cabinet tout de même.
Ah, un cabinet. Il est noir?
Allons, monsieur Fillon, on se détend. Comment allez-vous?
Attendez deux secondes.
C'est à vous que je demande, monsieur Fillon, pas à Anne-Méo.
Oui, je suis pas trop en forme.
Je ne vous cache pas que ça se voit.
C'est un peu déstabilisant. D'habitude, je suis quelqu'un d'extrêmement joyeux.
On voit clairement la différence.
Et je fais des cauchemars également.
Racontez-moi.
Je suis tranquillement dans mon château, il fait beau, je lis les mémoires de Jean-François Copé. Et là, Christine Angot débarque et commence à me draguer.
Oui. Bien, je vais tenter de vous comprendre via la théorie de Freud.
Freud fiscal?
C'est vrai que vous allez très mal. Il doit y avoir des raisons à tout ça. Est-ce que ça se rapporte à l'enfance?
Ah, c'est clair que mes enfants me rapportent beaucoup, mais bon...
Allons, monsieur Fillon, il faut tenir bon!
Oui, François, un peu de bonne tenue.
Ah, des bonnes tenues, j'en avais, mais je les ai rendues.
Alors, ce que vous allez me faire, c'est rentrer chez vous et vous écouter un petit disque de Thomas Fersen, par exemple.
Ah, il est drôle?
Pas toujours, mais...
Vous savez ce qu'on dit, hein, il faut combattre le mal par le mal.
Oh, merci pour lui, docteur.
Ça fera 3000 euros.
Ah, je me sens mal. Ah, Pierre Bérégovoy, j'arrive.
Thomas Fersen, vous êtes magnifique, oui, psy. Hein, la vie d'Hippolyte
Giraud. Formidable.
Alors, je l'ai peut-être pas dit, mais c'est vrai que c'est un super acteur. Il est très impressionnant sur scène quand il lit ses textes. Au théâtre de l'œuvre,
dans le
spectacle. Quand il incarne ses personnages entre les chansons. Effectivement, au théâtre de l'œuvre, on peut vous voir jusqu'au 1er avril à 19h pétante, attention. Et puis, vous serez au mois d'avril, vous passez par Saint-Priest, Yssingeaux, Quévennes, Bressure, Poitiers, Bordeaux, Lillebonne, ça c'est dans le 76.
Vous alliez oublier Moulins.
Oh, bah non, enfin. Alors je vais vous le dire, c'est en mai, le 13 mai à Moulins, la veille à Chambon-Fougerolles et au Creusot le 17 mai. Merci Thomas Fersen. Le mot de la fin aux candidats qui ont dévoilé leurs préférences culturelles.
Dans le peu de temps que j'ai, je passe au bord de ma piscine, seul, à lire Sartre, Mauriac, Kandinsky.
Kandinsky.
Oui, ça m'aide beaucoup.